France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Diane Fossé, meurtre sur la planète des singes. Diane Fossé est l'une, voire la plus célèbre des primatologues américaines, qui consacrera 18 ans de sa vie à étudier les gorilles des montagnes Rwanda. Une pionnière qui, dans les années 70, révolutionne la discipline en prouvant qu'on peut communiquer, voire sympathiser avec une espèce tout en l'étudiant. Et au diable la fameuse prise de distance scientifique. Avec le temps, Diane Fossé est aussi devenue une icône de la protection animale. Grâce à son combat acharné, parfois violent, contre les braconniers et les trafiquants, elle a permis de sauver les gorilles des montagnes, alors au bord de l'extinction. Une dévotion qui fera d'elle une figure controversée et une martyre. Le 27 décembre 1985, en effet, son corps sans vie est retrouvé gisant sur le sol de sa cabane, la tête fendue à coups de machette. Depuis, le mystère demeure. Qui a tué Diane Fossé ? Un braconnier humilié, un scientifique jaloux, un dignitaire corrompu, la primatologue gênée. Retour sur une mort aussi étrange que fut sa vie. Notre invité aujourd'hui, Serge Bahuchet, ethno-écologue, spécialiste de l'étude des relations entre les sociétés humaines et les forêts tropicales. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Pinel, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est une cabane en tôle verte adossée à la montagne. On y vient à pied. C'est un refuge perdu au milieu de la forêt tropicale du massif des Virunga, au nord-ouest de Rwanda. Et c'est ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, que vit Diane Fossé, 53 ans, célèbre primatologue américaine. Elle s'y est installée il y a 18 ans pour étudier le gorille des montagnes dans son milieu naturel. Son camp de base, appelé Karizoke, est devenu depuis un centre de recherche réputé qui attire des universitaires du monde entier. L'un d'eux s'appelle Wayne McGuire, 34 ans, originaire d'Oklahoma. Il a attendu plus de 2 ans avant d'obtenir ce poste d'assistant, un rêve de gosse. Depuis 5 mois maintenant, il partage le travail et le quotidien de Diane Fossé. 2 jours plus tôt, ils fêtaient Noël ensemble. Aujourd'hui, vendredi 27 décembre 1985, à 6h du matin, il est réveillé par les cris en swahili du cuisinier du camp. Alors Wayne se précipite vers la cabane de Diane, située à 50 mètres de la sienne. Sous la fenêtre de sa chambre, un bout de tôle a été arraché, comme pour s'y faufiler. À l'intérieur, tout est dévasté. 32 ans plus tard, il se remémore la scène avec émotion pour le documentaire Diane Fossé, Secret dans la brume, réalisé par Zara Hayes pour le Studio National Geographic.
C'est très douloureux pour moi de parler de cette histoire. Il y avait du sang derrière sa tête, dans ses cheveux, et une entaille qui lui traversait le visage, du nez jusqu'à sa bouche. Elle avait des cheveux dans la main. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je ne pouvais pas croire qu'elle était allongée là, comme ça. Elle qui s'est toujours montrée si forte. Elle était totalement sans défense et totalement morte.
Diane Fossé est allongée sur le sol, face contre terre, le crâne fendu à coups de machette. L'arme des crimes est retrouvée maculée de sang à quelques centimètres d'elle. À côté de sa main droite, traîne son revolver ainsi qu'une cartouche pleine. Tout indique qu'elle n'a pas eu le temps de charger le barillet. Dans l'autre main, quelques mèches de cheveux arrachées, traces peut-être d'une lutte à mort. Pour le reste, la scène de crime ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné. La cabane a été méticuleusement fouillée, les meubles sont renversés, les tiroirs ouverts, les papiers dispersés. Pourtant, rien n'a été volé. On retrouve son passeport, ses appareils photos, ses pistolets, les quelques bijoux qu'elle avait, 1200 dollars en liquide et tous ses chèques de voyage. Alors, que cherchait-on réellement? Est-ce une mise en scène? En attendant l'arrivée de la police rwandaise, les pisteurs de Diane Fossé partent même à la recherche d'indices. Dans la boue fraîche, ils remarquent des traces de pieds nus menant à la cabane de Diane. La preuve, selon eux, que le meurtrier est rwandais. Parce que de mémoire d'homme, ils n'ont jamais vu de blanc dehors sans chaussures, dans la boue, et la nuit. Les pisteurs protègent pourtant les traces jusqu'à l'arrivée de la police, mais celle-ci n'y prête aucune attention. D'ailleurs, aucun relevé d'empreinte n'est pratiqué, pas même sur la machette ensanglantée qui passe de main en main. Dès les premières heures, l'enquête est bâclée, alors que la nouvelle fait le tour du monde. Oui, l'émotion est forte aux États-Unis, où Diane Fossé est une scientifique reconnue, populaire. Pour ceux qui connaissent son travail, les coupables ne font aucun doute. Depuis des années, la primatologue menait une lutte sans merci contre les braconniers de la région. Un conflit ouvert qui prend aujourd'hui des allures de vendetta.
Diane Fossé, la célèbre naturaliste américaine assassinée la nuit dernière au Rwanda, avait demandé par testament à être enterrée dans le cimetière des gorilles. Son corps porte des traces de coups de machette à la tête. Les coupables sont probablement des braconniers. Les gorilles des montagnes sont en effet particulièrement recherchés par les braconniers qui revendent très cher les crânes de ces animaux et les mains qui sont montées en cendrier.
Diane Fossé aurait donc été assassinée. Un acte lié à son combat contre les braconniers. C'est l'hypothèse la plus logique, mais pas forcément la plus vraisemblable. Mais oui, comment expliquer que rien n'ait été volé? Ni argent, ni armes. De plus, les cheveux retrouvés dans la main de Diane sont des types européens, peut-être les siens, peut-être ceux de son agresseur. Des échantillons sont envoyés en France et aux États-Unis, au FBI, pour analyse. Dans l'attente des résultats, l'enquête se poursuit et les pistes se multiplient, aussi nombreuses qu'étaient les ennemis de Diane. Elle était ici une femme controversée, vénérée par certains, mais honnie par d'autres. Parmi eux, les braconniers, mais aussi les trafiquants en tout genre, les pouvoirs politiques et scientifiques, et même les touristes qu'elle a combattus sans relâche. C'était aussi une personnalité complexe, Diane Fossé, qui préférait sans doute la compagnie de ses gorilles à celle des êtres humains, comme en témoigne Marie-Claude Baumsel, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, interrogée sur Antenne 2 le 30 décembre 1985.
Elle était proche d'eux, elle avait les mêmes gestuels, les mêmes cris, elle était intégrée près des gros mâles, ce qui est difficile, car les gros mâles sont assez facilement, non pas agressifs, mais menaçants. Elle portait les jeunes, elle les élevait, oui, elle avait repris un contact complet avec eux. Il est certain qu'elle était retournée à l'état gorille, si je puis dire. C'est-à-dire qu'indiscutablement, elle avait de mauvais rapports avec une autre espèce, l'espèce humaine.
Diane Fossé est née à San Francisco en 1932. Fille unique, elle grandit entre une mère indifférente et un beau-père autoritaire. Elle prend tous ses repas seule, dans la cuisine, accompagnée d'un poisson rouge qu'elle apprend à aimer, comme tous les animaux qui l'entourent. Elle veut devenir, assez naturellement, vétérinaire, mais elle échoue à l'examen. Alors elle s'oriente vers l'ergothérapie. Diane Fossé obtient son diplôme en 1954. Elle a 22 ans et elle s'envole pour Louisville, dans le Kentucky, loin. Très loin de sa famille. Elle travaille alors comme rééducatrice dans un hôpital pour enfants handicapés, un métier qu'elle adore, mais elle a des rêves d'ailleurs. En 1963, elle emprunte l'équivalent d'un an de salaire pour s'offrir son premier voyage en Afrique, un safari du Kenya jusqu'à la Rhodésie, le futur Zimbabwe. Elle part, dit-elle, avec deux objectifs. Rencontrer l'éminent paléontologue Louis Liki et observer les gorilles du Congo. Deux expériences qui vont bouleverser sa vie. La première se déroule en Tanzanie, sur le site archéologique d'Olduvai, où travaille le docteur Liki. Il autorise Diane à visiter son chantier de fouilles et en profite pour lui parler du travail de Jane Goodall, une ethnologue anglaise qui, grâce à son soutien d'ailleurs, observe des chimpanzés en Tanzanie depuis 3 ans. Il a la conviction, lui dit-il, que seules des études de terrain sur le long terme, permettront de comprendre les grands singes, nos plus proches parents. Diane est tellement captivée qu'elle tombe dans une fosse, se casse la cheville et vomit sur de précieux fossiles. 15 jours plus tard, une canne sous le bras, elle part pour le Congo, dans le parc national des Virunga, à la découverte du gorille des montagnes. Une rencontre, comme un coup de foudre, que Diane Fossé raconte plus tard dans son livre « Gorille dans la brume », publié en 1983.
Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J'entendis, je sentis avant de voir. Le bruit d'abord, puis une puissante odeur musquée, une odeur de basse-cour, et en même temps une odeur presque humaine. L'air retentit soudain de cris perçants, suivi d'un bruit de battements rythmés. C'était un énorme mâle, à dos argenté, caché derrière un rideau de végétation impénétrable qui se frappait la poitrine.
Après 7 semaines de voyage, Diane Fossé rentre aux États-Unis et retrouve sa routine et ses dettes. 3 ans plus tard, elle rencontre à nouveau le docteur Louis Leakey lors d'une conférence qu'il donne à Louisville. Il la reconnaît, c'est bien celle qui a vomi sur ses fossiles. Elle en profite pour lui montrer les articles qu'elle a publiés dans la presse locale. Impressionné par sa ferveur, le paléontologue lui déclare « Vous êtes celle que je cherchais ». Après Jane Goodall et ses chimpanzés, il voit en Diane Fossé la femme idéale pour aller étudier les gorilles. C'est qu'il a une théorie. Les femmes célibataires et sans formation scientifique font, selon lui, de meilleures observatrices sur le terrain que les hommes. Cela tiendrait à leur plus grande patience, voire à leur instinct maternel. Bon, une vision très stéréotypée, qui permet néanmoins à 3 femmes de révolutionner la primatologie. Jane Goodall, donc, Biruté Galdikas, qui consacrera sa vie aux orang-outans de Bornéo, et entre les deux, Diane Fossé. Louis Leakey obtient pour elle une bourse d'études, et en décembre 1966, à 34 ans, l'Américaine plaque tout, son pays, son fiancé et son métier, en route pour l'aventure. À l'inverse des gorilles des plaines, que l'on retrouve en plus grand nombre dans plusieurs pays d'Afrique, celui des montagnes occupe seulement le massif des Virunga, une chaîne de 8 volcans qui sépare le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Diane Fossé établit son premier campement au Congo sur une prairie à plus de 3000 mètres d'altitude. Les premières nuits sont terrifiantes, mais la joie l'emporte lorsqu'elle découvre, en suivant des traces au sol, le premier groupe de gorilles de montagne. Très vite pourtant, Diane doit quitter le pays, dévastée par la guerre civile. Elle s'installe alors au Rwanda, dans les forêts luxuriantes du Nord-Ouest, une terre mystique que raconte son ancien collaborateur, le naturaliste André Lucas, au micro de France Culture en 1982.
Alors là, le décor des Virunga, c'est quand même un décor assez grandiose et assez mystérieux. Quand on y pénètre la première fois, c'est un royaume étrange, très étrange. Étrange d'abord par la végétation. Alors on y trouve entre autres des arbres extraordinaires comme ces ingénias qui sont monstrueux, qui sont couverts de mousse, qui moisissent, qui finissent d'ailleurs par faire périr les arbres, par les pourrir littéralement. Donc c'est un côté un peu fantasmagorique. Vous avez tous ces lichens qui pendent et qui donnent un aspect un peu spectral à la forêt, qui est assez caractéristique de cette forêt moussue. Donc ça donne un décor assez très sauvage et on a l'impression de se retrouver un petit peu à l'aube de l'humanité.
Le 24 septembre 1967, à 16h30, très exactement, Diane Fossé établit entre deux montagnes le centre de recherche de Carizoque. Des fondations qui se résument pour l'heure à 2 temps perdus dans la brume, alors reste l'impensable maintenant, apprivoiser les gorilles. Chaque jour, Diane Fossé prend ses jumelles, un carnet de notes, un appareil photo et gravit les pentes des volcans. Avec son pisteur, elle part observer différents groupes de gorilles qu'elle apprend à décrypter, accroupie en silence, pendant des heures et des heures. Et, progressivement, Diane comprend que derrière ces colosses en fourrure se cache un animal pacifique, végétarien et craintif, bien loin de l'image hollywoodienne de King Kong et bien moins dangereux qu'un chasseur. A-t-on déjà vu un gorille déambuler, fusil de chasse en bandoulière? Alors, elle les approche, mais elle doit paraître la plus inoffensive possible. Elle se met même à les imiter, marche à 4 pattes, grignote des pousses de bambou, émet des grognements, se frappe la poitrine au besoin, et ça marche. À la fin de la première année, elle parvient ainsi à s'approcher à 6 mètres de l'un des groupes. 1 an plus tard, elle peut évoluer en plein milieu des gorilles. Elle apprend à les reconnaître par leur empreinte nasale et leur donne à chacun un prénom. Peanuts, Uncle Bert, Beethoven ou Digit. Elle identifie les familles, trace des arbres généalogiques. C'est un travail titanesque. Elle est aussi la première à décrire certains comportements des gorilles, comme l'infanticide et la migration des femelles entre les groupes. Et puis en janvier 1970, le miracle a lieu.
Peanuts m'observait avec attention, à travers les arbres, et s'approchait lentement en se dandinant. Soudain, il fut tout près de moi et s'assit pour me regarder. J'ai commencé à me gratter la tête bruyamment, comme eux, Presque aussitôt, Peanuts s'est mis à se gratter aussi. On ne savait plus qui imitait qui. Je me suis allongée sur le feuillage pour me faire aussi inoffensive que possible. Et dans un geste très lent, j'ai tendu la main vers lui. Je lui ai d'abord présenté la paume, qui ressemble plus à celle des gorilles. Quand j'ai vu qu'il reconnaissait que c'était une main, je l'ai lentement retournée et je l'ai abandonnée sur le feuillage. Peanuts a semblé réfléchir. Il a fait un pas, il a tendu sa propre main et il a délicatement passé ses doigts sur les miens.
Le photographe Bob Campbell, envoyé par le National Geographic, réussit à saisir ce lien possible entre une bête sauvage et un être humain. Quelques jours plus tard, Diane Fossé fait la une du magazine, un jeune gorille pendu à son cou. Elle devient alors mondialement connue, et l'on se passionne pour la vie de cette California girl qui, du haut de 1m80, grimpe aux arbres, endure la chaleur et murmure aux oreilles des gorilles. Ce qui ne manque pas de surprendre quelques années plus tard le présentateur du Tonight Show, où Diane Fossé est invitée.
Est-ce que je pourrais vous poser une question ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie ? Je suis ton ami ? Je suis content, pas toi ?
Sur papier glacé, la vie à Carizuke semble idyllique. Elle est pourtant menacée. Ces gorilles sont en danger d'extinction. À cause d'abord de l'explosion démographique du Rwanda. 6 millions d'habitants et un taux de fécondité de 8 enfants par femme pour un pays grand comme la Belgique. Donc, le moindre mètre carré est cultivé jusque sur les pentes des volcans. Alors, refoulés sur les hauteurs, les gorilles meurent de pneumonie. La forêt constitue aussi une énorme réserve de viande. Pour traquer l'antilope, les braconniers posent des milliers de collets. Diane retrouve parfois ses gorilles morts, pris par une patte à un fil d'acier serré jusqu'à l'os et bouffé par la gangrène. Les cadavres sont mutilés, têtes et mains coupées finissent en trophées et en cendriers géants sur le marché aux touristes. En Europe, les zoos réclament des bébés gorilles. Alors pour les enlever, les hommes doivent abattre le mâle dominant, la femelle, les frères, les sœurs, un massacre. Résultat, en 10 ans, le nombre de gorilles de montagne a diminué de moitié. Il en reste 250, et à ce rythme, il pourrait bien disparaître avant la fin du siècle. Mais pour les protéger et continuer son travail, Diane Fossé a besoin d'argent. Et c'est là que le bât blesse. Sans diplôme, impossible pour elle d'obtenir la considération de ses pairs et donc des financements. L'autodidacte se résout ainsi à quitter ses montagnes pour de longs mois. Direction Cambridge, en Grande-Bretagne, où elle obtient un doctorat en zoologie en 1974. De retour à Carizuke, Diane Fossé se lance dans une lutte acharnée contre les braconniers. Grâce au financement qu'elle obtient, elle engage une milice privée, oui, pour détruire les pièges, intimider et humilier les chasseurs. Et tous les coups sont permis. Jusqu'à la magie noire que Diane Fossé fait mine d'utiliser, se jouant des croyances locales. Dans la vallée, elle devient alors une sorte de légende, comme l'explique le naturaliste André Lucas.
Cette légende, elle était facile à comprendre. D'une part, c'est une femme qui vivait seule, dans la montagne, complètement perdue parce qu'il n'y avait aucune habitation. Donc elle était complètement isolée et coupée du monde. De plus, elle descendait jamais, elle ne voulait voir personne, elle n'avait aucun contact avec la population européenne. Elle avait en plus une taille, elle dépassait 1m80, ce qui était impressionnant pour les Africains qui sont tous dans cette région de petite taille. C'est une région de pygmées. Et elle avait une attitude, il faut dire, aussi vis-à-vis de son personnel, enfin des gens, des Africains qui travaillaient avec elle, qui étaient quand même très distantes et très autoritaires. Elle s'était créée autour de sa situation une véritable légende. Et les Africains parlaient de la Dame Blanche qui vivait bien sûr là-haut, sur les volcans, un peu comme d'une sorte de mythe qui était difficile à approcher et dont ils avaient peur d'ailleurs. En fait, ils avaient très peur d'elle.
À chaque légende, son surnom, Diane Fossé, rebaptisée par les villageois Nirama Chabelli, la femme qui vit seule dans la forêt. Une femme plus vulnérable qu'elle n'y paraît. La preuve. Un matin de janvier 78, l'un de ses assistants, Ian Redmond, frappe à la porte de sa cabane. Il vient de retrouver le cadavre mutilé de Didji, son gorille préféré, la tête et les mains coupées. Diane Fossé est dévastée. Après ce meurtre, sa lutte contre les braconniers devient une guerre personnelle, à la vie, à la mort.
The word wild applies to the words you and me.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Diane Fossé.
France Inter, Affaires Sensibles. Pendant que Yann me racontait l'horrible nouvelle, je revoyais défiler devant mes yeux toute la vie de Didjit, depuis le premier instant où je l'avais vue, 10 ans plus tôt. Petite boule soyeuse de fourrure noire. Je me sentais comme amputée d'une partie de moi-même. Didjit, qui dans son rôle de sentinelle avait été pendant si longtemps d'une importance vitale pour son groupe, était mort en service commandé, tué par des braconniers, le 31 décembre 1977. Il avait reçu 5 coups de lance mortels, en tenant en respect 6 hommes et leur chien. La pensée de l'angoisse et de la souffrance qu'il avait endurée et de la compréhension qu'il avait peut-être eue de la cruauté humaine me serrait le cœur.
Après le meurtre de Didjit, son gorille préféré, Diane Fossé crée le Didjit Fund pour financer sa milice qui lutte contre les braconniers. En Europe et aux États-Unis, les réactions sont chaleureuses. Mais sur place, l'ambiance est d'élite. Les fonds récoltés attirent toutes les convoitises, d'autant que certains chercheurs du centre s'opposent aux méthodes utilisées par Diane Fossé. Eux aussi veulent protéger les gorilles, mais sans oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ces terres, comme l'explique la professeure Marie-Claude Baumsel en 1985.
Alors, il y a les braconniers qui les chassent, mais la chasse est ouverte aussi parfois sur ces animaux?
Non, la chasse n'est jamais, non. Bien entendu, ouverte. Mais vous savez, un gorille, ça fait quand même 150 à 200 kilos de viande. Il ne faut pas oublier qu'en plus, dans les pays africains, les gens meurent de faim. Alors, il est vrai aussi que nous avons un peu tendance, nous, à faire de la moralité aux Africains, qui, alors que nous faisons petit à petit disparaître notre propre faune, ils ne vont même pas l'excuse de mourir de faim.
Carizoquet, certains prônent ainsi le développement d'un tourisme contrôlé et sélectif qui profiterait financièrement aux autochtones, histoire de les motiver pour qu'ils protègent eux aussi les gorilles. Mais Diane Fossé n'y voit encore que l'appât du gain et une nouvelle menace pour les animaux. Isolée, elle se sent trahie de toutes parts et elle se radicalise. Elle va même très loin un jour. Elle tire plusieurs coups de feu au-dessus de la tête d'un groupe de touristes néerlandais. Un autre, elle envoie sa milice brûler la maison d'un braconnier. Elle aurait même kidnappé, le temps d'une nuit, l'enfant de l'un d'eux. La situation devient intenable. En 1980, après 13 ans passés avec ses gorilles, Diane Fossé consent à quitter un temps Carizoquet. Pendant 3 ans, elle enseigne à l'université Cornell, dans l'état de New York. Elle en profite pour terminer l'écriture de ses mémoires. Gorilles dans la brume est publié en 1983. C'est un immense succès international, dont les droits sont immédiatement achetés par Hollywood. Diane Fossé passe au rang d'icône de la protection animale. Mais elle a une seule idée en tête, repartir au Rwanda. Et c'est chose faite, en juin 83. À peine arrivée à Carizoquet, elle escalade la montagne pour retrouver ses gorilles, bien sûr. Et ils la reconnaissent tout de suite, oui, ils l'entourent d'affection malgré sa longue absence. Mais Diane devra désormais renoncer à venir les voir aussi souvent qu'elle le voudrait. Elle souffre depuis plusieurs années d'une grave insuffisance respiratoire liée à son tabagisme et à ses conditions de vie extrêmes. Alors elle se concentre sur ce qui lui reste d'énergie, donc lutter contre les braconniers. C'est à cette époque qu'elle rencontre le photographe français Yann Arthus Bertrand. Il sera l'un des derniers à lui tirer le portrait. Pour l'émission Animalia, diffusée sur Antenne 2 en 1989, il se souvient d'une femme désespérée.
Complètement désespérée. Elle voyait les membres de sa famille, les gorilles, disparaître de plus en plus. En plus, elle était en très mauvaise santé et elle ne savait pas qui allait travailler derrière elle. Donc c'est vrai qu'à la fin de sa vie, quand je l'ai rencontrée, elle a un peu le moral à zéro.
Vous avez vu les pièges également, c'est impressionnant.
Oui, elle m'avait sorti les milliers de pièges, pratiquement un millier, qui avaient été pris dans l'année par sa brigade anti-braconnage. Et ça m'avait impressionné parce qu'il y en avait un tas énorme.
En 1985, 2 ans après son retour à Carizoquet, l'animosité entre Diane Fossé et les autorités locales est à son comble. Le directeur du parc national refuse de la recevoir. Un mois avant sa mort, ses 2 perroquets tombent mystérieusement malades et elle trouve des amulettes maléfiques devant sa porte. Triste présage. À l'aube du 27 décembre 1985, son jeune assistant américain Wayne McGuire la découvre donc assassinée dans sa cabane, la tête fendue à coups de machette. Quelques jours plus tard, le 31 décembre 1985, elle est enterrée selon les vœux et ses vœux au milieu de la forêt, dans le cimetière qu'elle avait elle-même construit pour ses amis gorilles décédés. Peu de temps après, 5 de ses pisteurs, des hommes fidèles et dévoués, sont arrêtés et jetés en prison. Ils y resteront des mois, sans être inculpés. Personne à Carizoquet ne croit à leur implication, mais les autorités rwandaises veulent boucler au plus vite cette affaire qui nuit à l'image du pays. D'autant que les États-Unis leur mettent une sacrée pression. Alors l'enquête s'accélère. Le 11 février 86, 1 mois et demi après le meurtre, Wayne McGuire est convoqué au poste de police. Une semaine plus tôt, un garde de Carizoquet l'a surpris à l'intérieur de la cabane de Diane, pourtant interdite d'accès. On le soupçonne d'avoir voulu voler ses derniers travaux pour les publier à son compte. De là à l'avoir assassiné, il n'y a qu'un pas. Mais qu'enjambe pourtant et allègrement le procureur présent à l'interrogatoire, comme le raconte Wayne Maguire dans le documentaire Diane Fossé, secret dans la brume, réalisé par Zara Hayes en 2017.
Le procureur est arrivé après que tout le monde se soit installé. Il est entré, il allait et venait comme ça en me regardant. Pourquoi n'avez-vous pas entendu le vacarme lorsqu'elle a été assassinée? Je dormais profondément, ma cabane était de l'autre côté du camp. Qui a tué Diane Fossé? J'ai répondu des braconniers. Et il n'arrêtait pas de se retourner et de me dire non, vous l'avez tué. Vous êtes entré par effraction et vous avez volé ses précieux documents. Vous l'avez tué pour ses précieux documents. Quoi? Non, je ne l'ai pas tué. Nous étions amis. Et de temps en temps, le gars derrière moi me poussait vers l'avant par l'épaule. Il poussait. Je répétais, je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas fait ça. Puis il m'a tendu un papier et un stylo. Signer le papier. Il n'y avait personne d'autre ici, juste le procureur et deux autres hommes. Pas de témoins, rien. J'ai eu peur pour ma vie. Alors j'ai signé.
En signant ce procès-verbal, Wayne Maguire reconnaît être entré par effraction dans la cabane de Diane Fossé. Et il peut désormais retourner à son travail, à Carisoquet. Mais l'engrenage est lancé. 5 mois plus tard, en juillet 86, les autorités rwandaises informent l'ambassade américaine de Kigali qu'ils tiennent enfin le coupable, Wayne Maguire. Pour étayer leurs accusations, ils s'appuient sur les résultats d'analyse des cheveux retrouvés dans la main de Diane Fossé. Le laboratoire français mandaté conclut qu'il s'agit d'un homme blanc. Mais sans pour autant dire que ce sont les cheveux de Wayne, puisque aucun échantillon n'a été envoyé. De son côté, le FBI, qui lui aussi a analysé des échantillons de mèches, ne parvient à aucune conclusion précise. Mais pour les autorités rwandaises, pas de doute, elles vont même plus loin. Wayne Maguire aurait agi avec la complicité d'un certain Rwilanaka, l'un des fidèles pisteurs de Diane, qui aurait voulu se venger après avoir été viré. Prévenu par son ambassade, Wayne Maguire quitte le Rwanda au plus vite et s'envole pour les États-Unis. Le 11 décembre 1986, son procès s'ouvre à Kigali en son absence et celle de son complice présumé, Roy Lekana. Quelques semaines plus tôt, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Son corps n'a jamais été rendu à sa famille et d'aucuns pensent qu'il a été assassiné.
Maguire a été jugé en son absence et condamné avec un collègue rwandais qui se serait suicidé dans sa cellule de prison avant le procès. Lors de l'audience, il n'y avait aucun avocat de la défense pour Maguire. Aucun témoin n'a été appelé à la barre. Aucune preuve matérielle n'a été apportée. Le procès a duré 30 minutes.
Un simulacre de justice pour une peine capitale, Wayne Maguire est condamné à mort par contumace. Officiellement, le dossier Diane Fossé est une affaire classée. Mais officieusement, une question demeure. Les autorités rwandaises veulent-elles vraiment résoudre ce crime? Ian Redman, un ancien collaborateur de Diane, penche pour cette hypothèse. Dans les papiers de son ami, il retrouve en effet la copie carbone d'une lettre qui lui a été adressée qu'il n'a jamais reçue. Elle date d'un mois avant sa mort, cette lettre. Diane Fossé, il raconte avoir découvert un trafic d'or entre le Zaïre et le Rwanda. Elle dit avoir des noms, détaille les points de passage et les lieux de rendez-vous. Une contrebande qui ne peut prospérer qu'avec l'appui des autorités locales. À d'autres amis, elle a d'ailleurs confié vouloir profiter de l'adaptation prochaine de ses mémoires par Hollywood pour révéler au grand jour la face cachée des parcs nationaux. Alors, a-t-on voulu la faire taire ? Cette piste, comme toutes les autres, disparaîtra avec la guerre civile rwandaise et le génocide qui s'ensuit en 1994, un bain de sang qui fera près d'1 million de morts. Parmi eux, peut-être, le réel meurtrier de Diane. On ne le saura jamais. Le tribunal de Kigali a été incendié, le camp de Carisoquet saccagé et les mèches de cheveux retrouvées sur les lieux du crime ont été détruites depuis longtemps. Il reste néanmoins à cette histoire quelques certitudes. Celle d'une tragédie qui coûtera la vie à 2 personnes et détruira celle de Wayne Maguire, contraint d'abandonner sa carrière et son rêve de gosse. Mais l'on retiendra un autre épilogue, porteur d'espoir, celui-là. Grâce au combat de Diane Fossé, les gorilles des montagnes ont échappé de peu à l'extinction. Depuis 20 ans, la tendance est même inversée. Ils se sont multipliés jusqu'à dépasser le millier. Ils sont aussi devenus, grâce au tourisme de luxe, un levier de développement pour le Rwanda, un trésor national. D'ailleurs, un gorille à dos argenté orne le billet de 5000 francs rwandais, très élégant. Mais pas sûr que Diane Fossé aurait apprécié. Aujourd'hui, l'histoire de Diane Fossé, dont nous parlons avec notre invité Serge Bahuchet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethno-écologue, spécialiste de l'étude des relations entre les sociétés humaines et les forêts tropicales. Ethno-écologue, c'est un joli mot, encore faut-il en connaître le sens. Donc je viens le chercher auprès de vous.
C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce que j'étudie, c'est les relations entre les groupes humains et puis leur milieu naturel. Donc c'est un ethnologue qui fait de l'écologie.
Parfait. Voilà. Je voulais que ça soit très précis. Donc, c'est bien. Diane Fossé est une personnalité singulière, qui n'a rien à voir au départ avec la primatologie en plus. Pour comprendre son histoire et celle d'autres femmes qui ont travaillé sur les grands singes, il nous faut remonter à un homme. On l'a cité, le professeur Louis Leakey. Qui était-il exactement?
Alors Louis Leakey, c'est un Britannique vivant au Kenya, et qui était un paléoanthropologue, c'est-à-dire un préhistorien travaillant sur les restes humains, et c'est celui, avec deux, trois autres, qui ont trouvé les plus anciens fossiles d'hominidés sur le continent africain, c'est-à-dire les ancêtres de la totalité de l'humanité. Et donc, il a trouvé les australopithèques, il a trouvé plein de d'espèces qui sont devenues absolument mythiques, et les découvertes qu'il a faites sont extrêmement importantes pour la compréhension de l'évolution de notre espèce. Alors, pourquoi il s'est intéressé au grand singe ? C'est parce qu'il a eu l'intuition que, pour comprendre les fossiles préhistoriques, les fossiles très anciens qu'il trouvait, pour essayer de reconstituer leur mode de vie, fallait regarder les êtres vivants qui en étaient le plus proches, c'est-à-dire effectivement les gorilles, les chimpanzés et puis aussi les orang-outans de Bornéo. Et donc il a engagé ces trois personnes que vous avez mentionnées pour aller, on pourrait dire, vivre avec les singes et puis faire une sorte d'ethnologie de ces espèces.
Alors, parce qu'on en était où de la connaissance des grands singes à ce moment-là ?
On n'en était pas très loin. Il y a eu beaucoup d'observations qui étaient faites sur les grands singes en captivité.
Et oui.
Depuis déjà une bonne vingtaine d'années avant lui. Donc il faisait des tests, qui faisait des études plutôt psychologiques sur les mouvements et tout ça. Et c'est aussi une période où on commençait d'autres zoologues américains essentiellement, commençaient à avoir l'intuition que pour comprendre les primates, pas les grands singes, mais les primates, fallait les voir sur le terrain.
Oui.
Donc se sont mises en place des recherches sur les babouins, sur les gibbons. Donc ça, c'est dans les années 30-40. Donc ça, c'est le début des recherches de terrain, donc d'observer les animaux dans la nature, ce qui est extrêmement difficile parce que l'environnement est compliqué, les singes ont peur et ça demande
de la patience.
Et donc c'est là que l'apport d'abord de Jane Goodall, qui est quand même celle qui a commencé, et puis Diane Fossé qui a continué, enfin qui a commencé un peu après, mais avec les mêmes méthodes, consiste à se faire accepter par les singes. Donc ça nécessite des présences longues sur le terrain.
Alors, donc on peut dire que c'est des pionnières de ce point de vue.
C'est des pionnières de ce point de vue-là. Alors sur les gorilles de montagne, donc ceux
du Rwanda,
il y a eu un peu avant Diane Fossé, un autre Américain, un écologue, alors lui pour le coup, un universitaire, un étudiant de l'Université de Chicago, qui avait été envoyé au Congo belge, puisque c'était avant l'indépendance.
Avant Zaïre.
Donc du côté Congo, mais aussi dans les montagnes, là où elle-même est allée un petit peu après. Mm-hmm. Donc c'est lui, il s'appelle George Challer, et c'est le premier qui a passé... Alors, il n'a pas passé toute sa vie, il a passé un ou deux ans. Néanmoins, il a été tous les jours voir les animaux, et puis il a fait la première monographie qu'on a connue sur cette espèce-là.
Parce que ce qui est intéressant, donc, il n'y a pas meilleure façon de comprendre cette espèce-là, alors on parle des gorilles, hein, pour resserrer sur Diane Fossé, que de vivre avec eux. C'est ça le grand tournant. C'est ça le grand tournant de scientifique, c'est ne pas les regarder. Alors, les regarder dans leur milieu naturel et se fondre avec eux. C'est ça la révolution.
C'est-à-dire ne plus leur faire peur.
Oui.
Et donc ça passe par une phase très lente. Alors c'est ce que font les primatologues actuels.
Oui, n'empêche qu'il fallait bien qu'il y ait une
première.
Mais
ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. C'est-à-dire que l'habituation d'un groupe, d'une troupe de grands singes, ça prend 5 ans ou 6 ans.
Ouais.
Pas de vie continue, mais de retour régulier. Et pendant cette période-là, on va se développer exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que il faut que les animaux n'aient plus peur de l'homme.
Et jusqu'à la reconnaître. C'est très émouvant, ça. Quand elle repart en Angleterre, elle passe par Cambridge.
Ouais.
Elle revient et les gorilles la reconnaissent.
Ouais, ouais, ça, plusieurs années après, ça, c'est impressionnant. Ouais.
C'est extraordinaire.
Ouais, ouais.
Le rapport, j'allais dire, il y a un rapport humain qui se crée.
Oui, il y a un rapport humain qui se crée. Alors,
mais animalo-humain.
Ça passe par ce qui est décrit dans votre récit. Hein, la reconnaissance personnelle de l'observateur vers les grands singes.
C'est formidable.
Donc, et mes collègues actuellement le font, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les animaux, ils leur donnent des noms, et puis comme ils observent pendant plusieurs années de suite, effectivement, ils voient les couples, les enfants, et puis qui deviennent grands. C'est un petit peu ce qu'elle a. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est ce que vous avez décrit dans le récit. Et donc, réciproquement, parce qu'évidemment, c'est des êtres vivants qui sont très proche de nous, c'est très frappant. Eux aussi, ils observent.
Ah, c'est formidable.
Alors, la grosse différence par rapport à... Et c'est probablement une des choses qui lui a été reprochée dans le milieu scientifique à un moment, c'est qu'actuellement, on ne les touche plus, les animaux. C'est-à-dire qu'on s'en approche, autant qu'ils l'acceptent, on s'en approche, et ça, c'est le but de cette habituation. C'est-à-dire qu'au début, on est à 6 mètres, et puis après, on est à 3 mètres, puis après, on est à 1 mètre. Mais on va pas plus loin, c'est-à-dire que les chercheurs actuellement ne touchent pas les animaux.
À cause de dangers de virus, notamment?
Oui, essentiellement à cause des maladies, oui.
Ce qui peut se comprendre.
Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et ça n'empêche pas qu'il y a une... Effectivement, ils se reconnaissent.
Alors, on dit communément... je ne veux pas vous couper, vous avez fini,
j'espère.
On dit communément qu'on descend du singe. Est-ce exact, scientifiquement?
Non, nous sommes des cousins. Nous avons les mêmes ancêtres.
D'accord, bah oui, c'est déjà ça. Voilà. Et certains les mêmes gestes, hein.
Il y a les mêmes gestes, et de plus en plus, on arrive à se rendre compte qu'ils ont des capacités cognitives, ils ont des comportements qui sont très troublants.
Serge Bahuchet, vous êtes parti sur un chemin, vous m'avez proposé un chemin, je ne vais pas en prendre un autre, il m'intéresse beaucoup. Vous me disiez que les gorilles ont des comportements étonnants, lesquels par exemple?
Bah déjà, les gestes des adultes par rapport aux bébés, aux enfants, la relation qu'il y a entre les adultes et les petits, qui durent plusieurs années, c'est des animaux qui vivent longtemps.
En moyenne.
Je ne voudrais pas trop dire de bêtises, je dirais au moins 50 ans, 40-50 ans, je pense.
D'accord, mais c'est une longue vie pour un animal, c'est clair.
Quand il n'y a pas de braconnier. Et puis les regards, certains types de vocalisation, d'interaction.
Une sociabilité, en fait.
Sociabilité.
Donc, une sociabilité qu'ils sont capables de partager avec l'humain dès lors qu'un rapport correct a été...
Oui, mais c'est quand même très rare.
Oui, enfin, j'imagine.
Il faut vraiment des humains qui choisissent ce genre de choses.
Alors évidemment, le danger, ben c'est jamais l'animal. Hein. Je disais, j'avais vu un gorille avec un fusil, déjà. L'animal ne connaît pas la valeur de l'argent, donc c'est rassurant, il n'est pas dangereux. Ouais. Évidemment, le danger, l'absolu danger, c'est l'homme, comme d'habitude, et tout ce qu'il a de pire, le braconnier. J'imagine que c'est quelque chose qui n'est pas réglé, forcément.
Non, ce qui a été dit en conclusion de la présentation, c'est vrai, c'est-à-dire que... Le travail de Diane Fosset et ce qu'elle a mis en place, même si c'était pas ce qu'elle voulait réellement, a réussi. C'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, effectivement, aujourd'hui, dans cette région-là, les gorilles sont nombreux, ils sont bien protégés, ils génèrent des ressources parce qu'effectivement, il y a du tourisme, et c'est ça qui permet de payer le parc et les employés du parc. Donc cette opération-là, elle a réussi, c'est une population qui est sauvée. C'est pas le cas dans les autres zones forestières d'Afrique où il y a plus de pression sur la forêt et sur les bêtes qui y vivent, et en particulier les grands singes.
Vous faites du terrain, vous aussi?
Alors moi, je fais du terrain, mais du côté des humains. Donc, je travaille chez les hommes qui vivent à proximité des grands singes, et, mais qui n'ont pas d'interaction de la même manière que les primatologues. En revanche, au laboratoire auquel j'appartiens, au muséum, nous avons deux équipes qui travaillent sur deux groupes de grands singes. L'une en Ouganda, donc très proche du Rwanda, dans les populations de chimpanzés, dans un contexte de parc national. Sabrina Krief, qui est assez connue quand même maintenant ici, qui aurait dû être là aujourd'hui avec moi, mais elle est sur le terrain avec ses chimpanzés.
C'est donc, la meilleure des excuses.
Voilà. Elle s'efforce, avec succès d'ailleurs, et ça c'est peut-être une différence, une évolution des techniques pendant les 20 ans qu'ont suivi
Diane Fossey,
c'est d'abord d'avoir une équipe de recherche avec des Français, des jeunes, des étudiants français, des étudiants ougandais, d'avoir créé une équipe d'Ougandais. Bon, Diane Fossey avait ses pisteurs, mais elle en a aussi beaucoup. Mmh. Et elle a des observateurs, c'est-à-dire que pendant que les Français sont pas sur place, elle a des techniciens, excellents écologues, qui ont été formés, puis qui vont suivre le groupe de chimpanzés, donc qui est habitué depuis 20 ans maintenant. Et ça, c'est l'autre différence dans les méthodes actuelles. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui observent le comportement du groupe des animaux, mmh. et en même temps, on prend en compte tout l'environnement où ils sont. Donc, il y a eu un inventaire de tous les arbres, un inventaire des pistes sur lesquelles ils passent, les espèces, le relevé du climat, de la fructification. Donc, de manière à voir comment s'organise le territoire des animaux, qu'est-ce qu'ils mangent.
Ah, c'est ça, j'allais vous dire, mais quelles questions vous vous posez et quelles réponses vous allez chercher quand vous observez?
Eh bien, justement, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est organisé leur groupe, quels sont les mouvements qui se passent, comment ils se déplacent, les interactions, est-ce qu'il y a plusieurs groupes qui se rencontrent ou autre. Et une autre approche qui est aussi devenue importante à partir du travail de quelques chercheurs, et Sabrina a beaucoup développé, c'est comment les animaux se soignent, qu'est-ce qu'ils ont comme problème de santé. Donc elle est elle-même vétérinaire, donc elle a observé leur maladie, et elle a observé qu'ils mangeaient certaines feuilles ou certaines écorces qui ne faisaient pas partie de leurs aliments ordinaires.
Mais qui étaient médicaments.
Et qu'elle a fait analyser, qui se sont révélés des médicaments. Donc ça a développé un type de questionnement qu'on appelle l'automédication. Et donc après, le travail que Sabrina Krief a fait en Ouganda avec les chimpanzés, on a une autre collègue, donc la deuxième équipe de notre laboratoire, qui elle travaille avec des gorilles, mais en forêt. Donc, ceux qui n'avaient pas été étudiés jusqu'à présent, parce que ceux dont on parle là, c'est les gorilles de montagne.
Oui,
il y en a qui sont dans la forêt de plaine. Mmh. Elle travaille à la frontière du Cameroun et de la République centrafricaine, s'appelle Shelly Mazi, et elle a appliqué la même méthode d'habituation.
Et elle s'est aperçue qu'en fonction de l'environnement et de la nature du terrain, montagne d'un côté, plaine de l'autre, les comportements sociologiques animaux étaient différents.
Il y a des différences, c'est pas, il y a des différences morphologiques, enfin, les zoologues les classent dans deux espèces différentes. Les gorilles de montagne sont plus trapus, ils vivent en altitude, ils ont des grands poils, ils sont beaucoup plus
enveloppés,
oui. Ceux de plaine sont plus graciles, c'est des gros animaux quand même, ils font aussi 200 kilos. Mais enfin, il y a des différences. Par contre, le comportement social, il se ressemble beaucoup.
Quel est l'héritage de Diane Fossey? D'abord, comment aujourd'hui elle est considérée par la communauté scientifique? C'est une grande figure, c'est une pionnière. Elle fait consensus ou pas?
Mon impression, c'est qu'elle est considérée comme une pionnière. Oui, ça c'est certain. C'est une étape importante dans le rôle qu'elle a eu pour la divulgation, la diffusion, la prise en considération de cette espèce, de son comportement et de son de la familiarité de la proximité qu'il représente avec notre propre espèce. Donc ça, c'est quand même un apport très important. Je dirais que son enfermement sur elle-même, qui a été très bien décrit dans le récit, puis qui malheureusement lui a coûté la vie, a limité si on compare, et puis j'arrête là, avec sa collègue Jane Goodall, qui est toujours active aujourd'hui pour protéger les chimpanzés. Et...
Elle a pu continuer, elle, évidemment.
Elle n'avait pas la même approche.
Bien, Serge-Michel, merci, bonjour, n'importe quoi. Mais au revoir et merci.
Merci.
Infiniment des éclairages que vous avez apportés. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui. Diane Fossé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mélissa Etroit.